Nous allons aborder de manière un peu oblique cette question de la volonté de Dieu. Par la suite, on peut discuter ensemble si vous avez des questions, si vous aimeriez aller plus loin. Mais j'aimerais, à partir donc de cette lettre de Paul à l'église de Philippe, réfléchir à un aspect assez particulier et pourtant assez fréquent en ce qui concerne la volonté de Dieu, où Paul est dans une situation où il doit s'expliquer. Et nous allons lire le texte au chapitre 1 et à partir du verset 12. Hier, nous avons donc dit que Paul avait un lien très particulier, très tendre avec cette église de Philippe, ce qui ne l'a pas empêché de reconnaître très lucidement les problèmes dans cette église. Il a pu tout simplement mettre en évidence les tendances parfois opposées, un certain légalisme et par ailleurs un certain laxisme, les conflits ouverts, les rivalités parmi les membres de l'église et puis aussi les différences d'avis dans quantité de domaines. Mais Paul veut que cette église demeure ferme. Ce qui est très encourageant par rapport à l'église de Philippe, c'est qu'elle a écouté les conseils de Paul. À un moment donné, Irénée, évêque de l'église d'Antioche en Syrie, a été arrêté. Et on l'a conduit à Rome où il devint martyr. Il est jeté dans l'arène avec les bêtes féroces déchirées et il meurt martyr. Mais en route depuis Antioche jusqu'à Rome, il s'arrête à Philippe. Et lors de ce moment, parce que Philippe c'était sur la grande voie romaine qui reliait finalement Rome à Byzantine. Et lors de cet arrêt à Philippe, Irénée est encouragé par l'Église. Et encouragé parce que l'Église rappelle à Irénée le message, l'Évangile. Aussi longtemps que nous attachons une importance capitale et centrale à l'Évangile, ça permet à ce qu'on puisse affronter toutes les difficultés. Et Irénée dit, dans plusieurs de ses lettres, il est encouragé par cette église de Philippe et ce qui lui a permis de faire face aux bêtes sauvages à Rome. Et cette église de Philippe devient finalement un genre d'arrêt sur la route entre le Moyen-Orient et Rome, car quantité de prisonniers chrétiens sont conduits à Rome pour faire face aux martyrs. L'église de Philippe demeure attachée à l'Évangile, donc suit les recommandations de Paul. Mais il fait face à un moment donné à l'incompréhension. Verset 12. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » La parole de Dieu. J'aimerais donc juste que l'on concentre sur ce court passage par rapport à notre thème, la volonté de Dieu. Paul est incompris. Il se trouve finalement face à un questionnement, peut-être pas toujours verbalisé, mais il a entendu parler des inquiétudes des chrétiens à son sujet. Et donc, il démarre en disant, « Je veux que vous le sachiez, frère. » Il veut répondre finalement à ces questions qui sont posées, à cette incompréhension qui se manifeste. Ça vaut la peine juste de réfléchir un petit peu au parcours de l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, pour persécuter les chrétiens, conversion remarquable. Ensuite, il reste un temps à Damas. Après 3 ans à Damas, il retourne à Jérusalem. C'est difficile à Jérusalem. Et il repart de Jérusalem et il fait toute une œuvre en Cilicie et en Syrie. Pour ensuite, 14 ans après sa conversion, retourner à Jérusalem. En fait, il a passé 14 ans depuis sa conversion dans l'anonymat. Suite à cela, nous avons ce passage, acte 13, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. » Et là, Paul entame avec Barnabas et Silas et d'autres collaborateurs tout son ministère public, ses 3 voyages missionnaires, où il fonde quantité d'églises, où il dit même, à partir de l'église d'Éphèse, que toute l'Asie mineure avait entendu parler de l'Évangile par son intermédiaire. 3 voyages missionnaires. Et quand on fait un petit peu, j'allais dire, la comparaison de textes, on se rend compte que ça durait environ 11-12 ans. Et après cette période, je dirais, de ministère très fructueux, parce que 11 ans, c'est pas long, hein, c'est pas long dans une vie. Après cette période de ministère très fructueux, il a cette conviction qu'il faut aller à Jérusalem, sachant pertinemment qu'à Jérusalem, les difficultés l'attendent, qu'il sera persécuté. Et malgré tous les avertissements des chrétiens, quantité de chrétiens sur son parcours lui disent « Non, Paul, n'y va pas, n'y va pas, il y va. » Et ensuite, une période de 5 ans où il est arrêté, il se trouve en prison à Césarée Philippe pendant 2 ans, un voyage périlleux vers Rome pour ensuite se trouver en prison à Rome encore pendant 2 ans, avant de comparaître devant Néron. Et c'est cette période de 5 ans qui a troublé l'Église. Suite à cette période de 5 ans, juste pour compléter un peu le parcours, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Il semble qu'il a été relâché, et encore une période de 4 ou 5 ans, il a continué son ministère, mais il y a peu de récits concernant cette dernière période de la vie de Paul. Ce que nous savons, c'est qu'il a été donc martyr à Rome aux alentours de 65-66, en même temps que l'apôtre Pierre, probablement. Donc également jeté aux bêtes féroces, certains disent, mais c'est la légende, hein, qu'il a été finalement plongé dans un vase énorme d'huile brûlante et il est mort martyr comme cela. Peu importe comment, il est mort martyr. Mais, si Paul dit ici, je veux que vous le sachiez, frère, c'est par rapport à cette période de 5 ans, après ses 3 voyages missionnaires, où il se rend à Jérusalem et où finalement il se trouve en prison, à Césarée, sur les mers et à Rome. Je veux que vous le sachiez, frère. Incompréhension. Il ne faut pas s'attendre à ce que lorsque nous suivons le Seigneur, que tout le monde approuve ou que tout le monde comprenne. Il va y avoir inévitablement dans votre parcours des moments d'incompréhension, même de la part de personnes bien pensantes. Il ne faut pas penser que l'incompréhension est uniquement de la part des personnes malveillantes. Vous qui allez donc envisager pour vous les jeunes de partir en mission, mais vous avez entendu l'échange hier soir. Même si les parents sont tout à fait enthousiastes et d'accord pour un départ en mission, il y a quand même des questions qui se posent et des inquiétudes. Et ce que eux, ils ont dit tout haut, quantité d'autres dans l'Église pensent tout bas. Il y a inévitablement des inquiétudes. La question a été posée. Et l'Ebola. Nous allons, avec nos étudiants au Sénégal, au mois d'août cette année, c'est les 20 ans depuis que nous avons les cours décentralisés là-bas. Et inévitablement, le comité de l'Institut biblique a posé la question, oui, mais il faut absolument être sûr et certain par rapport à l'Ebola, par rapport aux extrémistes. Et il y a des inquiétudes. Et parfois, lorsque, malgré ces inquiétudes, on poursuit sa voie, ça engendre des incompréhensions. Alors, il faut que vous soyez préparés, que dans votre parcours et votre marche avec le Seigneur, que des chrétiens bien pensants puissent ne pas comprendre. C'est bien quand ils posent des questions, mais il peut demeurer finalement une incompréhension. Attendez-vous à cela. Nous sommes sur planète Terre. Ce côté-ci de la chute, ce côté-ci de la consommation de toutes choses. Et inévitablement, il y a des personnes qui vont dire, mais on n'est pas d'accord. Y compris des chrétiens pieux. On n'est pas d'accord. Attendez-vous à cela. Je veux que vous le sachiez, frère. Et puis, on peut poursuivre dans le livre des Actes. Ça vaut la peine juste de regarder, parce que là, ça met en exergue le problème. Actes au chapitre 20. Et nous lisons au verset 22. Paul... Il dit ceci, « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, il est convaincu, lui, personnellement, que ce qu'il doit entreprendre vient de Dieu. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. » Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Paul, sciemment, va à Jérusalem, sachant que des difficultés l'attendent. Et de ville en ville, tout le monde essaie de l'en dissuader. Nous lisons un tout petit peu plus loin, au chapitre 21, Verset 4. Paul, en route vers Jérusalem, se trouve à Tyr. Et on trouve les disciples. Nous sommes restés là 7 jours. Poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Un tout petit peu plus loin, les versets 10 et suivants. Maintenant, Paul est à Césarée, toujours en route vers Jérusalem. Mais comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, le lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous, c'est Luc qui écrit, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit, que la volonté du Seigneur soit faite. Voilà les passages qui encadrent ce début de phrase. Je veux que vous le sachiez, frère. C'est intéressant ces passages en Actes. Et en particulier lorsqu'il se trouve à Tyr et lorsque, verset 4, poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Est-ce que Paul a désobéi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, je pense qu'il faut lire dans le contexte. Il faut lire l'ensemble de ces passages. Paul sait que lorsqu'il se dirige vers Jérusalem, les difficultés l'attendent. Et il est prêt pour cela. Mais il est convaincu qu'il doit y aller. Dans plusieurs endroits où il se trouve, il est averti que les difficultés l'attendent. Que ce soit donc à Tyr, à Césarée et ainsi de suite. Agabus, un prophète de renom incontesté, qui avait déjà prophétisé du déluge et de la famine qui allait arriver, Agabus arrive à Césarée et il prend la ceinture de Paul et dit, voici l'homme à qui appartient cette ceinture, il va être lié, livré entre les mains des païens et connaître toute une période de difficulté. Agabus l'atteste, ça va arriver. Alors que s'était-il passé à Tyr lorsque, poussé par l'esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem? Vraisemblablement, ce qui s'est passé à Tyr, c'est que là aussi, l'Église inquiète pour Paul, répète ce qui a été dit plusieurs fois. À Jérusalem, si tu y vas, difficulté, souffrance, et ainsi de suite. Mais eux, ils ont probablement poussé le bouchon un petit peu plus loin et ils ont donné une interprétation de cet avertissement. L'Esprit disait partout que Paul, si tu montes à Jérusalem, difficulté, et ainsi de suite. Mais à Tyr, eux, ils ont poussé cette révélation du Saint-Esprit jusqu'à donner cette interprétation de ne pas y monter. Poussé par l'Esprit, ils lui ont dit de ne pas monter à Jérusalem. Probablement, ils sont allés un peu trop loin. Mais on comprend ça. On comprend ça. Quand finalement, tu es confronté à quelqu'un qui va se diriger vers une difficulté, une situation pénible, inévitablement, tu, par inquiétude pour la personne, tu vas essayer de l'en dissuader. Et même tu peux avoir, comme c'était le cas ici, une conviction de la part du Saint-Esprit que si tu y vas, Paul, ça va être pénible. Mais parfois, cette conviction qui vient du Saint-Esprit, nous le pouvons pousser plus loin, jusqu'à en donner une interprétation. Paul, si c'est tellement difficile là-haut, si tu as été arrêté là-haut, n'y va pas, poussé par l'Esprit, ils lui ont dit de ne pas monter à Jérusalem. Je pense qu'ils sont allés plus loin que ce qu'ils ont reçu du Saint-Esprit. Et ce qui arrive dans l'Église, on peut aller plus loin que ce que le Seigneur nous dit. Et finalement, c'est tout cela qui a créé cette incompréhension. Partout on lui disait, n'y va pas, il y va. Et cette incompréhension est restée. Mais c'est compréhensible. Paul vient finalement d'accomplir 3 voyages missionnaires. On pourrait dire 3 voyages missionnaires à succès. Les églises en Galatie, premier voyage. Deuxième voyage, les églises donc en Macédoine, en Achaïe. Et puis, il revient par Éphèse, et ça commence aussi en Asie mineure. Troisième voyage en Asie mineure, et en particulier à partir d'Éphèse, toute l'Asie entend parler de l'Évangile. Et donc, tout le monde dit, mais voilà un type extraordinaire, un implanteur d'église, voilà ce qu'il nous faut. Et il ne le fait que depuis 11 ans. Et tout le monde dit, mais c'est Paul, il faut continuer. Paul, il faut continuer. Et Paul dit non, je vais à Jérusalem. L'incompréhension. L'incompréhension. Alors je reviens. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde, y compris les chrétiens pieux, bien pensants, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde comprenne. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un franc-tireur. Est-ce que Paul, finalement, c'était un homme, un électron libre? Est-ce que c'était quelqu'un qui n'écoutait pas les autres? Non. Paul avait autour de lui toute une équipe, et vous avez remarqué qu'à Césarée, devant son insistance, tout le monde, y compris Luc, se rallie autour de Paul en disant « Mais que la volonté du Seigneur soit faite !» Il n'est pas allé finalement en électron libre ni en franc-tireur, mais il a osé braver l'incompréhension. Alors là, c'est une corde raide. C'est un fil de rasoir, hein, ce dont je vous parle maintenant. Je ne suis pas en train de pousser vers l'insoumission. Mais souvent, nous nous trouvons dans des situations où pour continuer dans notre marche avec le Seigneur et pour obéir, il y a des moments où il faut gérer l'incompréhension, même l'opposition, continuer, mais en s'assurant que nous avons des appuis solides de la part de l'Église et des anciens. Et souvent ce type, je dois le reconnaître depuis des années que je l'ai constaté, ce type de choix crée des difficultés dans l'Église, des dissensions dans l'Église. Il y en a qui ne comprennent pas et qui s'opposent, et il y en a d'autres qui comprennent et qui soutiennent. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à cela. Ça, c'est la réalité. Alors, nous allons poursuivre. Je veux que vous le sachiez, frère. Quoi ? Ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comme je l'ai dit, il a été arrêté. Alors nous retournons dans le livre des Actes, au chapitre 21. Et vous pouvez lire pour vous-même à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Mais Paul a été arrêté. Il monte à Jérusalem, et dans cette ville de Jérusalem, finalement, Paul est un peu redouté comme personnage. Ah, c'est celui qui prêche contre le temple, c'est celui qui, finalement, dénonce le judaïsme, c'est celui qui est opposé à la circoncision, au rite alimentaire. Paul est ennemi public numéro un des judaïsants. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, même dans l'église, il y en a qui ont un tout petit peu peur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que Paul est là ? Et donc, ils disent, mais écoute, il y a quelques frères qui ont pris un vœu, qui vont se rendre au temple, pourquoi tu ne les accompagnes pas ? Toi aussi, tu prends un vœu et tu payes tous les frais pour ce vœu. Parce que Paul, il n'était pas opposé à la circoncision. Paul était seulement opposé à la circoncision à partir du moment où on estimait que c'était nécessaire pour être sauvé aux chrétiens, mais pour pratiquer une rite qui faisait partie de la culture juive, mais ça ne lui posait aucun problème. D'ailleurs, lui-même a fait circoncire Timothée. Donc la circoncision en tant que telle ne lui posait pas de problème. Mais à partir du moment où il s'opposait à la circoncision comme étant nécessaire au salut, ça a créé d'énormes problèmes. Et donc les chrétiens à Jérusalem ont dit, va avec ces personnes qui ont pris un vœu, pour démontrer que tu n'es pas opposé à tout ce qui est nos coutumes, nos rites, notre tradition et finalement notre héritage. Et donc Paul y va. Et une fois dans le temple, il y en a qui le reconnaissent, bien entendu, et qui commencent à hurler et à crier en disant « Mais celui-ci est contre le temple, celui-ci est contre notre foi et notre religion. Et nous, nous l'avons vu en train d'introduire un païen dans le temple, ce qui était interdit. » Mais en fait, le texte est très clair, parce que le texte nous rappelle en Actes 21 qu'il n'a pas introduit un païen dans le temple. Ils l'ont simplement vu se promener avec Trophime en ville. Mais ils ont finalement brodé là-dessus pour dire qu'il a introduit un païen dans le temple. Ils l'ont arrêté. Et puis, ensuite, donc, toute une série d'événements et d'incidents. Prison à Césarée, voyage vers Rome, prison à Rome. Voilà ce qui lui est arrivé. Mais finalement, ce qui lui est arrivé est fondé sur un mensonge, fondé sur une injustice. Nous l'avons vu introduire un païen dans le temple. Faux. Il ne l'a jamais fait. Mais ces 5 années de sa vie tournent autour de cette injustice, de ce mensonge. Paul est persuadé que ce chemin qu'il a entrepris vient de Dieu. C'est l'Esprit qui l'a conduit vers Jérusalem. Comment donc Paul réfléchit-il à la volonté de Dieu ? Comment est-ce qu'il considère la volonté de Dieu dans le contexte où il se trouve ? Il n'est plus en train de faire ses voyages missionnaires. Il n'est plus en train d'amener les âmes à Christ. Il n'est plus en train de fonder les églises, il n'est plus en train d'affermir les églises. Maintenant, il se trouve dans des situations de plus en plus isolées, seules, traquées, en danger. Le voyage vers Rome, vous le souvenez de ce voyage vers Rome, où finalement, naufrage et tout ce qui s'ensuit. Et les chrétiens qui entendent parler de ça, « Mais Paul, tu t'es trompé !» Moi, j'ai entendu des prédications, d'ailleurs, sur ce passage des Philippiens et Actes, comme quoi il s'est trompé. Mais non, il ne s'est pas trompé. Je veux que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé, oui, cette parenthèse de 5 ans a contribué grandement à l'avancement de l'Évangile. Je veux que vous le sachiez. Comment est-ce que Paul gère, donc, cette situation? Comment est-ce qu'il gère cette injustice, ce mensonge? Et j'aimerais juste vous faire réfléchir à deux idées. La toute première, vite dit, la toute première, c'est Paul est profondément convaincu de la souveraineté de Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu est sur le trône. Le psaume 29 nous rappelle que même lors du déluge, Dieu était sur le trône. Lors du déluge. Alors qu'il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. 8 personnes qui sont montées dans l'arc, tout le monde a été détruit, anéanti. Mais même lors du déluge, lorsque le péché était à son comble, Dieu était sur son trône. Dieu qui, dans l'Ancien Testament, parle lors d'une sanction envers son peuple, le royaume du Nord, mon serviteur Cyrus, un païen, hostile au message de l'Évangile, mais Dieu parle de cet homme, Cyrus, roi de Perse, comme étant son serviteur. Parce que même tous les pouvoirs et toutes les autorités et tous les gouvernements qui sont au pouvoir sont entre les mains d'un Dieu souverain. Et il peut parler de Nebuchadnezzar de la même manière. Est-ce que Dieu était sur son trône pendant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que Hitler, finalement, échappait à la souveraineté de Dieu? Pol Pot? Ou finalement le génocide au Rwanda? Est-ce que Dieu était sur son trône lorsque Jonathan est décédé au mois de février? Ou pas? Et si nous n'avons pas une conviction profonde concernant un Dieu qui est au-dessus de tout et qui règne, nous n'allons pas tenir dans la course. Il y a quantité de choses dans notre vie que nous ne contrôlons pas, les amis. Nous ne contrôlons pas les questions de santé, le deuil, le chômage, accident, catastrophe naturelle. Il y a quantité de choses dans notre vie à chacun que nous ne contrôlons pas. Comment est-ce que nous réagissons devant ce que nous ne contrôlons pas? Est-ce que finalement nous avons cette attitude, mais Dieu contrôle tout? Il est sur son trône. Il a établi les limites au-delà desquelles les hommes ne peuvent pas fonctionner. Et il a établi les limites au-delà desquelles la nature ne peut pas se révolter. Dieu est sur le trône. En 81, celui qui était mon chef direct à OM visitait des équipes d'OM en Espagne. Et lors de ses visites, le chauffeur du véhicule dans lequel il s'est trouvé s'est endormi, accident, et il s'est trouvé paraplégique. Dieu était-il sur son trône ou pas? D'un homme actif qui dirigeait toute l'œuvre d'opération mobilisation en Europe, il est devenu un homme dépendant. Ça a changé tout son mariage. Tout ce qui est la sexualité dans le mariage, tout ce qui était son rapport avec les enfants, tout a changé depuis cet accident. Est-ce que Dieu était sur son trône? Ou pas? Et lorsque nous sommes confrontés aux difficultés dans notre parcours, y compris dans l'incompréhension des chrétiens, nous avons besoin constamment de nous rappeler Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. Ce qui me pousse à dire ce que j'ai noté pour moi-même, parce que ça me tient dans ma route, un accident peut m'arriver, mais rien ne peut m'arriver par accident. Ça, c'est un Dieu souverain. Un accident peut m'arriver. Je peux, en partant demain, avoir un accident de voiture et puis me trouver également paraplégique. Un accident peut m'arriver. Mais rien ne peut m'arriver par accident. Et il nous faut absolument revenir donc à cette conviction par rapport à la souveraineté de Dieu. Et vous savez, puisqu'il y a quantité de choses que nous ne contrôlons pas dans notre vie, la plupart d'entre nous, nous restons finalement dans ce que j'appelle le « no man's land », où la seule chose finalement qui nous arrête d'aller plus loin, c'est cette question « pourquoi ?». Alors la question « pourquoi ?» est légitime à un moment donné. devant la mort de Jonathan, c'est normal. À un moment donné, on pose une question. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais si le pourquoi perdure, c'est de l'incrédulité. Parce que le pourquoi doit se transformer en vers quoi ? Dieu, qu'est-il en train de m'apprendre ? Dieu, que veut-il me dire au travers de ces drames, ces tragédies, ces maladies, ces deuils ? Qu'est-il en train de me dire ? Et je dois, petit à petit, cheminer avec Dieu dans mon parcours pour transformer mes pourquoi en vers quoi ? Pour que je puisse comprendre et apprendre ce que Dieu veut me dire dans ma vie. L'une des grandes leçons, donc, de Paul par rapport à tout ce qui est cette période de sa vie, c'est que, et il le dit, Dieu ne se trompe pas, il est sur son trône. Il ne se trompe pas. Deuxième chose. Comment gérer les injustices ? Parce que finalement, Paul se trouve dans une injustice. Il passe 5 ans de sa vie à subir les conséquences d'une injustice. Comment le fait-il ? Fausse accusation. 2 ans de prison à Césarée, ensuite à Rome. Et il regarde en arrière. Comment gère-t-il finalement l'injustice. Alors je vais citer Pierre maintenant. 1 Pierre 1, verset 20, où il dit que celui qui a subi par excellence des injustices, Jésus-Christ, maltraité, sans riposter. Le texte continue en disant ceci. Qu'il s'est remis entre les mains de celui qui juge justement. Devant les injustices de la vie, beaucoup de chrétiens chutent, tombent. Devant les injustices dans l'Église, parce que l'Église n'est pas toujours très belle, l'Église peut être très injuste par moment. Et devant les injustices dans l'Église, on peut finalement passer toute sa vie en réaction. Avec finalement des ressentiments, des amertumes, des haines. Comment est-ce que tu réagis, toi, devant les injustices ? Les calomnies, les critiques ? Vous ne pouvez pas, vous tous qui envisagez donc un stage missionnaire, vous tous qui envisagez un engagement pour le Seigneur, vous ne pouvez pas vous engager dans cette voie-là sans à un moment donné être confronté à l'injustice. Et l'injustice la plus difficile à supporter, c'est lorsque ça vient de la part des chrétiens. Et vous ne pouvez pas l'éviter. Ça va arriver. Je ne suis pas prophète, mais je vous le garantis. Injustice, incompréhension, critique, calomnie. À plusieurs reprises dans mon parcours, j'ai dû gérer l'injustice. J'ai eu, à un moment donné, une lettre ouverte, écrite par des serviteurs de Dieu, pasteurs, me dénonçant, sans jamais m'avoir consulté, mais me dénonçant. Et il y a des cassettes qui circulent à mon sujet, dites et par des personnes qui ne m'ont jamais rencontré, interrogé. Et on pourrait passer toute sa vie avec amertume, on pourrait passer toute sa vie à vouloir se défendre. Mais le problème est qu'à partir du moment où on veut se justifier et se défendre, on ne passe plus de temps à évangéliser parce que ça bouffe toute notre énergie. Il faut à un moment donné décider, je me remets entre les mains de celui qui juge justement. C'est lui qui doit s'occuper de cela, pas moi. Moi je peux parfois m'occuper de frères et sœurs qui subissent les injustices et je veux les défendre, eux, mais pas moi-même. Ça c'est une décision que j'ai prise il y a des années en arrière, lorsque devant les calomnies, les critiques, les médisances, il faut se remettre entre les mains de celui qui juge juste. Parce qu'autrement, on s'empoisonne la vie et on ne s'en sort pas. Et Paul arrive à le faire. C'est pour ça que dans la suite de ce texte que nous avons lu ce matin, devant tous ceux qui prêchent l'évangile par esprit de rivalité, il dit « Je m'en réjouis ». parce que l'évangile est quand même prêché. Je m'en réjouis. Voilà. Je veux que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé, c'est 5 ans, un petit peu perturbé, turbulent, ces 5 ans ont contribué au progrès de l'évangile. Alors, maintenant, il faut aller plus loin dans le texte. Avoir une conviction par rapport à la souveraineté de Dieu et savoir gérer les injustices ne veut pas dire qu'on devient un petit peu fataliste. On baisse les bras, notre Dieu règne encore, et ainsi de suite. On n'est pas fataliste dans ce sens-là. Que sera, sera. Ça, ce n'est pas chrétien du tout. Inch'Allah, et ainsi de suite. Non. Le fait que nous croyons dans la souveraineté de Dieu, le fait que nous savons gérer les injustices ne veut pas dire que nous devenons passifs. Et j'aimerais vous faire parcourir le livre des Actes très rapidement. Mais déjà, au chapitre 21, lorsque Paul est arrêté, alors vous pouvez donc suivre avec moi si vous le souhaitez, je vais juste mentionner l'un ou l'autre verset. Paul, à un moment donné donc, lorsqu'il est arrêté, il demande, à partir de verset 37 du chapitre 21, il demande donc de pouvoir parler à la foule. Et l'autorisation lui est donnée, la foule est calme, et Paul raconte l'histoire d'Israël. Et puis, verset 21, le pétard. Verset 21 du chapitre 22. Alors il me dit, « Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Paul s'est provoqué. Ça, c'est un don spirituel. Hein. Savoir provoquer à bon escient. Mais Paul savait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et verset 22, ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais lors de cette parole, à mort, va, dit Paul, de la part du Seigneur, car je t'enverrai au loin vers les païens. Il provoque parce qu'il se rend compte que les Juifs avaient oublié la parole à Abraham. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc Paul provoque. Ensuite, verset 22 du chapitre 22, dans le verset 25 plutôt, lorsque Paul est attaché par les Romains, Paul interroge, vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Et il devient tout pêteux. Et il se rend compte que finalement, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Paul ne se laisse pas faire, il revendique. Un tout petit peu plus loin, au chapitre 22, à partir du verset 30, il se trouve devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin est composé de 2 sectes juives, Sadducéens et Pharisiens. Les Pharisiens croient à la résurrection, les Sadducéens n'y croient pas. Et Paul sème la zizanie. Il divise. Est-il finalement juste que je sois condamné parce que je crois à la résurrection des morts? Et les Pharisiens... Bravo! Et les Sadducéens à mort. Ils divisent le Sanhédrin. À un moment donné, chapitre 23, versets 12 à 35, il y a finalement un complot pour tuer Paul. Et c'est le neveu de Paul qui vient le visiter pour lui apprendre ce complot. Et Paul envoie son neveu vers le centenier pour l'en avertir. Et ainsi Paul est sauvé. Paul n'est pas là tout simplement passif devant les événements. Et puis à un moment donné, lorsque on essaie également de le faire monter à Jérusalem pour être mené devant le tribunal à Jérusalem, Paul sait pertinemment qu'il va être tué en route, donc il appelle à César. Comment est-ce que donc notre confiance dans la souveraineté de Dieu et notre manière de gérer les injustices dans notre chemin, comment est-ce que ça se vit au quotidien, mais avec bon sens et intelligence? Il faut saisir toutes les occasions pour pouvoir finalement tourner cela vers la propagation de l'Évangile. Je veux que vous le sachiez, frère. Je veux que vous le sachiez, frère. Que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il est devant l'incompréhension. Il est devant la critique, la calomnie. À plusieurs reprises dans ses lettres, Paul doit s'expliquer. Il n'est pas toujours compris. Et ici, il s'explique. Mais c'est la phrase là, à la fin du verset 12, que nous allons juste réfléchir un instant pour terminer. Cela a contribué au progrès de l'Évangile. Vous savez, parfois, quand on s'engage dans un chemin pour suivre le Seigneur, et même quand on est confronté à l'incompréhension, on ne sait pas toujours quelle en sera l'issue. On ne sait pas toujours. Et là, il faut faire attention. Est-ce que le simple fait d'avoir du succès veut dire que c'était toujours l'obéissance? Ou est-ce que le fait de ne pas avoir eu de succès veut dire finalement de désobéir? Voilà les réponses simplistes des personnes qui sont davantage influencées par la mentalité productiviste du XXIe siècle, la culture occidentale, qui finalement nous pousse à être, à avoir du succès. Clément, il va se trouver avec Benjamin Short bientôt. Le grand-père de Benjamin, il était missionnaire en Tunisie pendant 40 ans. Il n'a pas vu une seule conversion. Ah, il n'a pas assez prié, hein. Il s'est probablement trompé de la volonté de Dieu. Il aurait mieux valu rester à la maison, travailler, soutenir d'autres missionnaires qui avaient un petit peu plus de oomph pour évangéliser. Non, il s'est complètement... Il est à côté de la plaque, ce grand-père, hein. Malheur. Malheur à l'Église qui réfléchit comme ça. Parce que si le grain de blé ne tombe pas terre et ne meurt, il ne va pas produire du fruit. Donc il faut faire très attention, parce que parfois on s'engage sur les chemins où nous ne savons pas quelle en sera l'issue. Mais il ne faut pas croire que le fait d'avoir du succès ou de ne pas avoir du succès, ce sont les seuls critères. Il faut faire attention ici. Ça c'est le piège, un pot de banane. Faire attention. Que dit-il Paul? En effet, verset 13, tout dans le prétoire, tous dans le prétoire, savaient que j'étais en prison à cause de ma foi. Ça c'est déjà fantastique. Je ne suis pas en prison parce que j'ai commis un quelconque méfait. Je suis en prison parce que je crois en Christ. Le prétoire, c'était la garde impériale. C'est pour ça que je crois que cette lettre était écrite depuis Rome, parce que le prétoire, c'était la garde impériale à Rome. Et le prétoire était composé de 9000 soldats d'élite. Énorme. Et Paul dit que dans tout le prétoire et partout ailleurs, pour tout le monde, c'était manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Ça, c'est un effet de cette obéissance. Pas très glorieux. On ne dit pas que tout le prétoire s'est converti. Mais tout le prétoire était au courant que si je suis là, c'est parce que je crois en Christ. C'est pour ma foi en Christ que je suis dans les jeunes. Mais il dit autre chose un peu plus loin, que finalement, la plupart des frères, à cause de ces chaînes, sont devenus beaucoup plus audacieux dans leur témoignage. Beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte l'Évangile. Paul était souvent critiqué. Dans la toute dernière lettre qu'il écrit à Timothée, de Timothée, il dit « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » C'était une exagération, hyperbole. « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » La plupart des chrétiens, probablement, le tenaient un petit peu à l'écart. C'était les églises qu'il avait fondées, les chrétiens qu'il avait amenés à la foi. Mais la plupart, d'après Paul, le tenait un peu à l'écart. Pourquoi? Parce que Paul, est-ce qu'il faut aller en prison pour être vraiment fidèle à l'Évangile? Est-ce qu'il faut être aussi extrême que cela? Paul, est-ce qu'on ne peut pas être chrétien engagé en cherchant toujours un petit peu le bon compromis? Paul était connu comme étant un extrémiste. Et il dit plus loin dans cette même lettre que lors de ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous ceux qui étaient pressentis comme avocats et pour l'assister dans son témoignage devant Néron, tous l'ont abandonné. Voilà la fin de vie d'un serviteur de Dieu fidèle. On voudrait tous terminer la fin de vie chrétienne en étant finalement la vague montante, en surfant finalement au-dessus des difficultés. C'est pas comme ça que ça se passe. Paul va constater qu'à la fin de sa vie, l'incompréhension demeurait. Mais en même temps, il reconnaît ici que pour beaucoup de chrétiens, le simple fait qu'il avait tenu bon dans son engagement et que maintenant en prison, tout le monde sait qu'il est là à cause de sa foi en Christ, mais ça a encouragé l'Église à être beaucoup plus audacieux dans le témoignage. Son témoignage devant la difficulté a encouragé d'autres chrétiens à finalement faire face aux difficultés. Dernière chose. Et pas le moindre. Il est en prison à Rome. Il n'évangélise plus de la même manière. Mais maintenant, il va comparaître devant les autorités. Festus, Félix, Hérode et Néron. Et non seulement cela, mais il dit à la fin de cette lettre, verset 22, « Tous les saints vous saluent », donc il se réunit avec les saints à Rome, « principalement ceux de la maisonnée de César. » Autrement dit, et les documents extra-bibliques, authentiques, attestent que quantité de personnes dans la maisonnée famille de César se sont converties. Paul était l'instrument dans cela? Je n'en sais rien. Mais Paul peut dire que oui, je n'implante plus des églises. Oui, je n'évangélise plus partout en Asie, en Macédoine, en Achaïe ou en Galatie. Oui. Mais depuis que je suis arrêté à Jérusalem, Festus, Félix, Agrippa, Néron et tous ceux de la maison de César vous saluent. Et nous savons que par la suite, après Néron, il y avait également d'autres empereurs jusqu'à la fin du 1er siècle, Domitien. Et celui qui devait devenir empereur après Domitien s'est converti. Ainsi que sa femme, tous deux emprisonnés, exilés et finalement tués. Quantité de personnes dans l'entourage de César se sont converties. Mais grâce à un homme, finalement, qui n'a pas hésité à un moment donné à dire « Je vais à Jérusalem ». Et heureusement qu'il était dans cette prison à Rome, parce que s'il n'avait pas été à Rome, eh bien, chers amis, je n'aurais pas pu prêcher ici ce week-end, parce que cette lettre n'existerait pas. Ni celle aux Éphésiens, ni celle aux Colossiens, ni celle à Philémon. C'est grâce à cette obéissance que nous avons ces lettres qui sont d'une aide indispensable pour l'Église, les poteaux indicateurs pour l'aider à finalement s'orienter au XXIe siècle. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ça, c'est la volonté de Dieu.